Aujourd'hui, on plonge directement dans une analyse super fascinante du docteur David Adesilva. C'est sur le chapitre 12 du texte biblique des Hébreux.
Ouais, un texte vraiment, vraiment riche.
C'est ça. L'étude s'appelle « Citoyens à l'entraînement ». Et la mission de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de comprendre de l'intérieur comment un texte antique a réussi un véritable tour de force psychologique.
Un recadrage total même.
Exactement. Comment convaincre des personnes qui sont violemment marginalisées que leur souffrance, c'est pas une punition, c'est pas un abandon divin non plus, mais en fait, c'est un programme d'entraînement d'élite.
C'est complètement à l'opposé de notre façon de penser, hein.
Ah mais totalement. À notre époque, on se dit souvent que le confort absolu, c'est la preuve ultime de la réussite. Genre, si tout va bien, c'est qu'on a fait les bons choix.
Bah oui, c'est le réflexe naturel.
Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ça renverse complètement cette perspective.
Et pour vraiment capter l'impact de ce renversement, il faut d'abord s'ancrer dans la réalité brute, la réalité historique des premiers auditeurs de ce texte.
Qui n'était pas très rose.
C'est le moins qu'on puisse dire. On ne parle pas de gens qui traversent une petite crise existentielle ou qui se posent des questions de philo dans un salon.
Ouais.
Ces personnes, elles subissaient une vraie ségrégation, une pression sociale étouffante, des insultes publiques, on leur confisquait leurs biens.
Juste pour leurs convictions ?
Voilà. Ils vivaient dans un environnement hostile en permanence. Et ce qui est frappant, c'est que l'auteur ancien ne cherche pas du tout à minimiser cette brutalité.
Non, il rentre carrément dedans. Dès le verset 4 du chapitre 12, il utilise une imagerie athlétique très enrayée, très spécifique.
Et on n'est pas sur le petit jogging du dimanche matin.
Ah non, pas du tout. On parle d'un combat au corps à corps, d'une violence inouïe. Le docteur De Silva souligne que c'est très probablement une référence à la boxe antique, ou même pire, au pancras.
Le fameux pancras. C'est super important de visualiser ce sport pour comprendre le texte.
Dans le monde gréco-romain, le pancras, c'était le sport de combat par excellence. Et c'était sanglant. Il n'y avait quasiment aucune règle.
C'était de la lutte, des frappes, des étranglements.
En gros, à part mordre ou crever les yeux, tu pouvais tout faire. Les gars finissaient couverts de poussière, de sueur et de sang.
Ouais.
Et du coup, l'auteur utilise cette image avec une technique rhétorique assez dure, basée sur la honte. Il leur dit en substance, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché.
C'est violent comme interpellation.
Il est clair. Ouais. Il les secoue. Il leur dit que le Christ a versé son sang sur ce ring. Eux, ils ont pris des coups, ouais, mais ils respirent encore. Donc comment ils peuvent oser penser à jeter l'éponge maintenant ?
Et c'est là qu'on voit comment ils personnifient le péché.
Ah, vas-y, développe ça.
En fait, le péché n'est pas du tout présenté comme une simple erreur morale ou un petit faux pas. C'est décrit comme un adversaire implacable sur le ring. Un lutteur massif qui essaie littéralement de te soumettre ou d'étrangler.
Une vraie menace physique, quoi.
Exactement. Et dans leur contexte, céder au péché, c'était faire la paix avec la société qui les persécutait.
Ah, je vois. C'était renier leurs convictions pour avoir une vie plus facile.
C'est ça. Récupérer leur statut social. Donc l'auteur leur dit que faire ça, c'est abandonner l'arène de façon lâche, en plein milieu du combat, sous les yeux de l'entraîneur.
D'accord. Décortiquant tout ça, parce que l'analogie qui m'aide vachement à visualiser le truc, c'est celle d'une académie olympique ultra exigeante.
Ouais, j'aime bien cette image.
Si on y pense avec notre psychologie moderne, on est obsédé par le confort. Genre, si la connexion Internet coupe 10 minutes, c'est un drame.
On se sent agressé, ouais.
Mais imaginons un jeune prodige qui intègre le centre sportif le plus dur du monde. Les premiers mois, c'est un enfer. L'entraîneur le pousse à bout, critique tout, le laisse jamais souffler.
Il le brise en apparence.
Voilà. Si l'athlète voit ça comme de la haine, il va juste craquer et fuir. Mais s'il réalise que cette pression dingue, c'est la preuve absolue que l'entraîneur voit en lui un futur médaillé d'or...
Tout bascule.
Exactement. La douleur devient un insigne d'honneur. En fait, dans ce gymnase, si l'entraîneur t'ignore complètement et te laisse te reposer dans ton coin, c'est le signe terrifiant que tu n'as plus aucune valeur pour lui.
C'est une super métaphore et c'est parfait pour introduire le concept de base de cette section, la paideia.
La paideia.
C'est le mot grec qui sature tout le passage. On le traduit souvent par éducation, mais c'est bien plus lourd que ça.
C'est pas juste aller à l'école.
Non, c'est la discipline formatrice, l'entraînement rigoureux qui est censé forger le caractère d'un citoyen. Et pour expliquer que Dieu agit comme cet entraîneur, l'auteur va citer le livre des Proverbes.
Un classique.
Ouais, mais il y a un truc linguistique fascinant ici, que le docteur De Silva met en lumière. L'auteur d'Hébreu n'utilise pas le texte hébreu original. Il prend la traduction grecque, la Septante.
Attends, pourquoi utiliser une traduction à l'ange? Ça change vraiment le sens du texte.
Ça change fondamentalement la portée théologique. Bon, déjà, le grec, c'était la langue commune de l'époque. Mais surtout, le choix est hyper stratégique.
Comment ça?
Dans l'hébreu original de Proverbe 3, c'est une simple comparaison. Ça dit que Dieu châtie comme un père châtie son fils. C'est une analogie.
Ok, une métaphore poétique.
Voilà. Mais la traduction grecque transforme cette analogie en une déclaration littérale d'adoption. Le grec dit « le Seigneur châtie tout enfant qu'il reçoit ou qu'il adopte ».
Ah ouais, donc il transforme une poésie en un document juridique d'adoption, en gros.
C'est exactement ça.
Il leur dit « votre souffrance actuelle, c'est la preuve concrète et légale que vous faites partie de la famille de Dieu ».
C'est brillant comme recadrage. Ils souffrent pas parce qu'ils sont maudits. Ils souffrent parce que le Créateur est personnellement investi dans leurs caractères, pour les rendre capables d'habiter une cité éternelle.
C'est fort.
Et ce lien entre difficulté et vertu, c'était super respecté dans l'Antiquité. L'analyse cite Sénèque, par exemple.
Le philosophe romain.
Ouais, un stoïcien de la même époque. Sénèque dit carrément que Dieu éduque sévèrement ceux qu'il aime. Il prend l'exemple de Sparte, où les enfants étaient fouettés en public.
Ah oui, les fameux rituels spartiates.
Et Sénèque précise que c'était pas une punition, c'était probatoire, un test de résilience pour muscler la vertu.
Alors attends, je dois faire une pause tout de suite sur ce point précis. Parce qu'il y a un énorme signal d'alarme qui clignote pour nous aujourd'hui.
Je vois très bien de quoi tu vas parler.
Bah oui, si on commence à valider l'idée que Dieu utilise la souffrance, la maladie ou la violence pour nous entraîner, on rentre dans une théologie super toxique.
Ah mais totalement.
C'est le genre de logique qui justifie des phrases horribles du style « Dieu t'a donné ce cancer pour t'apprendre l'humilité » ou pire, qui sert d'excuse à la maltraitance domestique. Si on lit ça au premier degré, c'est de la manipulation dangereuse.
C'est le risque d'interprétation le plus grave de ce texte. Et le docteur De Sylvain insiste lourdement là-dessus. Il faut être clair.
Vas-y, clarifions.
Ce texte ancien ne justifie en aucun cas la maltraitance et n'enseigne pas que Dieu orchestre des accidents ou des maladies pour donner des leçons. D'ailleurs, l'auteur a délibérément adouci sa citation des proverbes pour enlever l'idée purement punitive.
Donc on parle de quoi exactement quand on dit souffrance formatrice ?
On parle exclusivement de la friction sociale. L'hostilité, les insultes, la persécution qui arrive parce qu'on assume sa foi dans un monde opposé.
C'est pas Dieu qui envoie la souffrance, c'est la société qui frappe.
Exactement. Le génie de l'auteur, c'est de dire « puisque cette hostilité est inévitable, ne la subissez pas, utilisez-la ».
Transformer l'agression extérieure en outil de développement intérieur.
C'est ça. Que la pression imposée par l'extérieur devienne ton exercice de musculation à l'intérieur.
C'est fascinant. Mais bon, même avec cette perspective, quand t'es dans l'arène, que tu prends des coups, que tu perds tes amis, l'envie de tout lâcher pour être tranquille doit être monumentale.
C'est humain de vouloir que la douleur s'arrête. Et l'auteur le sait très bien.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour contrer cette envie de fuir, il sort l'exemple ultime du pire choix possible dans l'Antiquité, l'histoire d'Ésaü.
Le drame d'Ésaü.
Franchement, c'est la commande Uber Eats la plus tragique de l'histoire.
C'est clair.
Pour resituer, Ésaü rentre de la chasse, il est mort de faim, complètement épuisé. Son frère Jacob prépare un ragoût de lentilles. Et là, sous la pression viscérale de la faim, du besoin de confort immédiat, Ésaü craque.
Il capitule complètement.
Il vend son droit d'aînesse, donc son statut, son héritage, sa place dans le récit divin, juste pour un bol de soupe. Et l'étude note une petite astuce de l'auteur d'Hébreux ici.
Ouais, il compresse la ligne du temps de la Genèse.
C'est-à-dire ?
Dans le récit original, il y a la vente pour la soupe, et des années plus tard, la perte de la bénédiction sur le lit de mort du père.
Ah oui, c'est séparé dans le temps.
Voilà. Mais ici, les deux événements sont fusionnés. Le but, c'est de rendre la relation de cause à effet hyper brutal. Brader un héritage éternel pour fuir un inconfort présent, ça a des conséquences irréversibles.
Et le texte, il va pas de main morte. Il dit qu'Ésaü n'a trouvé aucune place pour la repentance, même en pleurant.
C'est rude, hein ?
Moi, ça me choque toujours. On nous dit tout le temps qu'il n'est jamais trop tard. Pourquoi il a pas pu faire marche arrière, même avec des larmes ?
C'est une super question. Et ça nous oblige à voir comment les anciens comprenaient la repentance.
C'était différent d'aujourd'hui ?
Totalement. Nous, on est très individualistes. On voit la repentance comme le bouton reset d'une console.
Je fais une erreur, j'appuie sur le bouton, je m'excuse, et le jeu repart.
Voilà, on contrôle le processus. Mais dans la pensée juive du 1er siècle, la repentance, c'est pas un interrupteur à ta disposition. C'est vu comme un don de Dieu.
Donc tu peux pas jouer avec le système.
Précisément. Tu peux pas abandonner ta vocation par pur cynisme pour avoir la belle vie et te dire « Oh, je sifflerai Dieu plus tard quand la tempête sera passée ».
C'est hyper profond.
Et les larmes d'Ésaü, c'était pas des larmes de changement moral. Il regrettait juste les conséquences matérielles de son acte.
Il pleurait sur ce qu'il avait perdu, pas sur ce qu'il était devenu.
Exactement. Et ce qui est fou, c'est comment le docteur De Silva actualise ce syndrome d'Ésaü pour nous.
Parce qu'aujourd'hui, on risque pas la prison pour nos croyances.
Non, en Occident, la persécution sous cette forme est rare. Mais le piège d'Ésaü est là, sous une forme que le chercheur appelle le discipula domestiqué.
L'expression est percutante, le discipula domestiqué.
C'est l'art d'édulcorer tes croyances pour qu'elles collent parfaitement avec le statu quo commercial et social.
Une petite spiritualité privée, inoffensive.
C'est ça, un truc qui te détend le soir, mais qui ne dérange jamais tes ambitions financières ou ton image sociale.
Donc c'est échanger une vocation immense contre des divertissements triviaux.
On vend notre droit d'aînesse pour le confort d'un canapé, en gros.
C'est glaçant quand on y pense.
Ouais.
Alors, face à cette tentation énorme de céder au confort, comment l'auteur fait pour remobiliser ses auditeurs? Parce qu'il faut leur donner une image plus forte que leur douleur actuelle.
Et c'est là qu'il sort un contraste visuel incroyable. Le conte de deux montagnes.
La ligne de départ et la ligne d'arrivée.
Le mont Sinaï d'un côté et le mont Sion de l'autre. La différence donne le vertige.
Parlons du Sinaï d'abord. Basé sur l'Exode, la description, c'est un film catastrophe. C'est une montagne matérielle avec un feu dévorant, des ténèbres, une tempête et une trompette qui sonne super fort.
L'approche d'un dieu terrifiant et distant.
Les tabous étaient tellement stricts que si un animal touchait la montagne, il devait être lapidé. Même Moïse tremblait de peur, hein.
Une religion basée sur la terreur et l'inaccessibilité.
Et c'est ce que les auditeurs ont quitté, selon l'auteur.
Il oppose direct ça au mont Sion.
La Jérusalem céleste.
Et Sion, c'est spirituel, c'est invisible, mais infiniment plus réel et permanent. Fini la terreur. On entre dans une fête avec des myriades d'anges.
L'ambiance n'a rien à voir.
Et il utilise un vocabulaire civique. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux.
Ah, le miroir parfait d'Ésaü.
Exactement.
Ésaü a jeté son statut de premier-né et eux sont invités dans une ville où tout le monde reçoit cet héritage. Ce sont des citoyens à part entière.
Et au centre de cette fête, il y a Jésus. Et l'auteur parle d'un détail théologique fou, le sang de l'aspersion.
Attends, le sang, on associe ça à la violence, pas à une fête.
C'est le génie de l'argument. Il dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel.
Le premier meurtre dans la Genèse.
Ouais. Le sang d'Abel, il réclamait bois. La justice et la vengeance contre Caïn. La condamnation.
Ok, mais le sang de Jésus?
Bien qu'il ait été versé injustement, il réclame pas la vengeance. Il proclame le pardon et la miséricorde divine. C'est ça qui rend l'accès à Dieu festif et sans terreur.
Donc l'argument psychologique, c'est regarder la ligne d'arrivée de dingue qui vous attend. Pourquoi faire demi-tour par peur des hommes alors que vous n'avez plus à avoir peur de Dieu?
C'est un sacré boost de motivation.
Mais il s'arrête pas là. Il dit que cette cité de Sion, c'est littéralement la seule chose qui va survivre à la fin des temps.
Pour prouver ça, il cite le prophète Agé. Dieu dit « Une fois encore, je secourrai la terre et le ciel ».
Et il s'arrête sur le « une fois encore ».
Parce que ça indique un ébranlement final et définitif.
Alors, pour bien comprendre cette vision de la fin des temps, c'est pas comme si Dieu allait envoyer un bulldozer cosmique, tout raser et construire une nouvelle ville sur les ruines.
Non, c'est une distinction cruciale. Le royaume inébranlable n'est pas un truc futur qui sera construit après la destruction. Il existe déjà, en parallèle.
Superposé à notre monde, mais invisible.
Exactement. Le grand ébranlement, c'est pas une destruction aveugle, c'est un retrait. Dieu va secouer la réalité pour faire tomber tout ce qui est matériel, tout ce qui est fabriqué.
Et quand le décor s'effondre comme un château de cartes...
La seule chose qui reste debout au milieu de la poussière, c'est cette montagne de Sion. Qui était là depuis le début?
C'est époustouflant. Mais du coup, ça soulève une question hyper concrète.
Laquelle?
Si tout notre monde visible va s'effondrer et qu'on va hériter de ce royaume indestructible... On fait quoi en attendant? C'est quoi la bonne réaction?
La réponse unifie tout le texte, c'est la gratitude. Le mot grec, c'est charis.
On traduit ça par la grâce, non?
Souvent oui, mais ici c'est vraiment l'action de grâce, une gratitude active. Et c'est pas désinvolte, ça doit être accompagné d'une crainte respectueuse.
Parce que l'auteur rappelle que Dieu est un feu dévorant.
Voilà. La grâce infinie n'annule pas la sainteté écrasante du divin.
Donc c'est un équilibre subtil. La gratitude, c'est pas juste dire merci et passer à autre chose.
Ah non. Le salut, c'est pas un laisser-passer gratuit pour vivre égoïstement en attendant le paradis. C'est une danse continue.
J'aime beaucoup cette expression.
Une danse entre la générosité immense de Dieu et la réactivité de l'humain. Cette gratitude devient l'identité du citoyen à l'entraînement. Ça se voit par le service et le refus des compromis.
Quel voyage intellectuel incroyable, franchement!
C'est fascinant du début à la fin.
Si on récapitule, on part d'une communauté brisée par la violence psychologique. L'auteur leur prouve que cette pression, c'est la PDIA, le gymnase spirituel.
Ouais.
Il les confronte au mauvais choix d'Ésaü en mode « ne bradez pas votre éternité pour un ragoût de lentilles ». Puis il ancre leur espérance dans l'accueil festif de Sion, loin de la terreur du Sinaï.
Pour finir sur l'exigence d'une gratitude active avant le grand ébranlement.
Ça laisse aucune place à la passivité. L'entraînement n'est pas fait pour être confortable, il est fait pour être transformateur.
Exactement.
Et ça m'amène à une pensée pour clôturer cette plongée, un truc qui me trotte dans la tête depuis le début.
Vas-y, je t'écoute.
Si pour ces anciens, l'inconfort et la résistance face à l'hostilité étaient les haltères spirituels indispensables pour museler l'âme, qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui ?
Ça fait mal de se poser la question.
Bah oui, on a une obsession pathologique pour le confort, on esquive la moindre contradiction, on veut que tout soit facile et sans friction.
On annule ce qui nous dérange.
C'est ça. Est-ce que cette fuite perpétuelle de l'inconfort ne fait pas de nous des citoyens spirituellement atrophiés, hein, Skir ?
C'est un vrai danger, ouais.
On dirait des athlètes qui exigent d'aller aux Jeux Olympiques sans jamais avoir transpiré ou soulevé le moindre poids. Si notre musculature morale est si faible, est-ce qu'on tiendra debout quand l'ébranlement final secouera nos certitudes ?
C'est une perspective qui calme, c'est sûr.
Mais en repensant au gymnase, peut-être que les cicatrices et la fatigue face aux épreuves, c'est pas un échec. C'est la preuve que l'entraîneur nous prépare rigoureusement pour un royaume indestructible.
Une super pensée à garder en tête face à la pression.
Absolument. C'est tout pour cette exploration approfondie. À la prochaine.